Bonjour et bienvenue, c'est l'épisode 48 de ITcast du 29 septembre 2017. Aujourd'hui, on voyage. On voyage d'abord à Honolulu avec la nouvelle interface d'administration de Windows Server qui s'appelle Project Honolulu et qui a manifestement beaucoup plu à nos invités. On voyage ensuite à Orlando en Floride où a lieu cette semaine la conférence Microsoft Ignite. Pour parler de tout ça, évidemment, nous avons Maxime, bien sûr, mais aussi Céphala Tagrerout, Michael Lopez, Étienne Deneuve, et puis en direct du centre de conférence d'Orlando, Jean-François Béranguet. Allez, tout de suite, c'est parti pour une bonne heure de nouveautés IT. Bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode de ITcast. On est en pleine semaine de Ignite et donc évidemment on va parler de toutes les annonces qui a eu lieu pendant qui ont lieu en ce moment même dans cette conférence Ignite. On a avec nous qui est Jean-François Béranguet. Salut Jean-François.
Hello everybody.
Qui est en direct de Orlando pour nous raconter ce qu'il a vu et ce qu'il va voir de Ignite.
Il est en forme. Hein.
Il est 13h pour lui, il est 19h pour nous, et on est, pour situer un petit peu, on est mercredi soir, c'est ça. Qui on a ? On a Maxime, évidemment. Salut Maxime.
Salut à tous.
Ça va bien ?
En forme aussi. Ouais, super.
De
super,
retour super. De week-end avec tous tes collègues.
Ouais, j'étais en off-site avec mon entreprise, on a fait des épreuves de Fort Boyard, c'était super sympa.
Ah, super. Salut Michael, Michael Lopez.
Bonsoir à tous.
Ça va bien ? Depuis la dernière fois.
Ça va, ça va. Oh bah oui, depuis la dernière fois, on s'est vu pour le PowerShell Saturday, premier événement en France, donc c'était très sympa.
Et oui, c'est vrai, c'était il y a une semaine, il y a une dizaine de jours.
C'est ça.
Céphala est là aussi, en direct de la région sud-est de Aix. Salut Céphala.
C'est ça. Bonsoir à tous, effectivement, oui, Aix-en-Provence.
Et le soleil.
Et puis,
il a bien fait beau aujourd'hui, donc nickel, c'est super. Comme toujours, j'ai envie de vous dire.
J'imagine, oui. en plus, moi, je viens d'une semaine à Seattle où il a plu quasiment tous les jours. Ah. Donc, c'était ouf.
Washington.
Pire que Paris, quoi. C'était pas Orlando. Et puis, il nous manque Étienne Deneuve qui va nous rejoindre dans les 5-10 minutes, le temps qu'il rentre chez lui. Donc, il faut avouer que comment ça s'est passé cet épisode, c'est Céphala qui nous a proposé d'en faire un rapidement parce qu'il était tout excité par une nouvelle release qu'on vient d'annoncer la semaine dernière et qui s'appelle le projet Honolulu.
Et donc c'est exactement pas là. Pascal là. Donc le projet Honolulu, c'est en fait c'est un débat si vous voulez qui va intéresser tout le monde dans le sens où aujourd'hui tout le monde manage des serveurs, donc, tout le monde, je veux dire, que ça soit du niveau 1, que ce soit du niveau 2, que ce soit du niveau 3, on se connaît toujours sur le serveur. On a quand même énormément de MMC depuis. Parce que ce qui est bien, c'est que Windows Server ne cesse de progresser en termes de fonctionnalités. Mais le problème, c'est que les interfaces ne changent pas. L'unification qu'on attendait depuis déjà un bout de temps ne se fait toujours pas. Et puis, ça me rappelle une discussion que j'ai eue avec justement Jean-François Apréa, donc un MVP du sud de Nice. Hein. Mm-hmm. Et on en a parlé avec les équipes produits, on a échangé énormément avec eux. Quand est-ce que vous allez nous faire une console de gestion centralisée de Windows Server? Mais à l'époque, on parlait d'Hyper-V, en fait, parce qu'on trouvait que l'interface d'Hyper-V était un peu vieillotte. Et l'interface SCVM, sincèrement, c'est une galère. Enfin, pour ceux qui le pratiquent, c'est quelque chose qui n'est pas facile comparé à un vCenter qu'on peut connaître, par exemple. Et puis, il est venu, donc, du coup, il y a quelqu'un, je pense que chez Microsoft, a tapé du poing sur la table. Il leur a dit, maintenant, on arrête tout. Et on va faire plaisir à nos petits gars. Donc, Honolulu a vu le jour. Donc, pour faire simple, en termes d'introduction, Honolulu, en fait, c'est un outil, une console web, donc HTML5, qui va vous permettre de gérer de manière centralisée votre infrastructure Windows. D'accord ? Donc là, du coup, on va pouvoir administrer du serveur Windows Server 2012, 2012 R2 et 2016. D'accord ? Mmh. Et ce qui fait que, du coup, vous allez avoir donc une seule console, bien entendu unifié, pour pouvoir gérer tout ce que vous faites au quotidien, en fait, que ça soit de la registrie, par exemple, si vous avez besoin, je sais pas, de gérer votre registrie, que ça soit, par exemple, du firewall, que ça soit l'event viewer de votre serveur, que ça soit la partie certificat de votre serveur, etc., etc., ces choses-là. Et ce qui est intéressant aussi, c'est la partie, on va dire, software defense storage, dans le sens où la partie, ceux qui ont fait du cluster storage Space Direct, effectivement, on n'avait pas de console, c'est-à-dire qu'on manageait tout en PowerShell. Donc du coup, ça, on l'a vraiment poussé, c'est-à-dire qu'on a essayé quand même d'avoir au moins une console pour avoir une visibilité, un dashboard, etc. Donc on pouvait l'interfacer avec des dashboards tierces, mais ça ne marchait pas très bien. Et pareil, comme tu disais, Michael, tout à l'heure en guise d'introduction, la partie console cluster. Alors cette fenêtre, donc cette MMC, qui est quand même relativement vieuxte parce que entre 2008, 2008 R2, 2012, 2012 R2 et 2016, sincèrement, en termes de changement et en termes d'intuitivité, ça n'a pas changé grand-chose. Et sincèrement, tous les admins, tous les IT ont été vraiment, vraiment frustrés de cette partie-là. Donc c'est pour ça en fait qu'est venu donc ce projet en fait qui est en train de mûrir. Donc pour l'instant, nous sommes en preview. Donc la public preview est sortie donc il y a à peu près 3-4 jours. Il y a plein d'articles, donc plein d'MVP qui ont écrit dessus. Donc n'hésitez pas à consulter les blogs de chacun. Et du coup, alors en termes de déploiement, donc est-ce que vous voulez peut-être savoir un petit peu comment ça se passe en termes de déploiement?
Ben oui.
Voilà.
Parce qu'en fait, je suis le seul Microsoft dans l'histoire, mais j'ai pas encore regardé le produit.
Voilà, c'est ça. Sincèrement, c'est un outil qui est très très simple, justement parce que ça sert à rien d'avoir quelque chose de trop compliqué si c'est juste pour gérer des serveurs. En fait, en termes de déploiement, vous avez deux choix. Soit vous l'installez sur un Windows 10, d'accord ? Donc de Windows 10, après vous attaquez votre serveur. Bon, c'est une pratique si vous voulez pour tester dans votre lab, c'est bien gentil.
Ouais, c'est pas terrible en prod. Hein.
Bien sûr, c'est pour ça que je dis ça, attention. Par contre, la version vraiment la plus, on va dire, la plus sécurisée, et surtout ce que préconise Microsoft, c'est en fait l'installer en tant que gateway sur un serveur, donc par contre 2016, ok ? Donc, on ne peut pas l'installer sur un 2012 ou on ne peut pas l'installer sur un 2012 R2, attention. Donc, si vous l'installez sur 2016, et là, vous avez deux modes. Soit vous installez donc un serveur gateway dédié juste pour ça, c'est-à-dire que vous l'installez, et sur ce serveur-là, vous rajoutez tous les serveurs que vous allez administrer. Donc, du coup, vous allez avoir un rebond, et puis bim, vous allez attaquer tous vos serveurs à partir de cette gateway. Ou alors, dans un cluster, vous l'installez sur un des nœuds du cluster, et à partir de ce nœud-là, vous managez ce nœud plus le cluster également. Voilà, donc c'est des scénarios, c'est les deux plus gros scénarios qu'on a aujourd'hui avec Honolulu, qui permettent du coup de gérer votre Windows à distance. Là, en termes de fonctionnement, en fait, c'est simple, ça fonctionne en fait avec du Remote PowerShell et du WMI sur WinRM, tout simplement. Donc, en termes de ports, en fait, vous avez juste les ports PS Remoting Remote PowerShell à ouvrir. Donc, de mémoire, je peux les donner, hop. Du coup, vous avez du HTTP, HTTPS, ouais. Donc vous pouvez les ouvrir. Donc c'est du 59.86 et 59.85. Vous les ouvrez en termes de firewalling. Si bien sûr vous avez du firewalling, vous avez du zoning au niveau de votre infra, quoi, tout simplement. Et bien sûr aussi, après je te laisse, Jeff, je te laisserai après. Vous pouvez également lui donner accès depuis l'extérieur. Bon, c'est un peu moins sécurisé, mais effectivement, si vous le publiez sur Internet, qu'il soit dans une DMZ, etc., vous pouvez le publier. Donc, en ouvrant bien sûr tous les firewalls qui vont bien, en faisant votre NAT et votre PAT, et vous pouvez accéder depuis l'extérieur sur votre infrastructure de gestion pour gérer donc tous les serveurs qui sont au niveau de votre infrastructure.
Ouais, donc juste pour préciser, la console est une console web. Donc, du coup,
tout à fait.
Elle est accessible depuis n'importe quel navigateur du marché, hein. Que ce soit Edge, Chrome et ainsi de suite. Donc ça, c'est le côté super pratique. Tu as parlé ensuite de pouvoir de la facilité de déploiement. Donc ici, à l'MS Ignite, on a eu entre autres une session dédiée sur le sujet. Top chrono, en moins de 50 secondes, la solution a été déployée, effective, et commençait déjà à être utilisée. Ensuite, pour rajouter des serveurs, il suffit d'avoir un fichier texte avec le nom de toutes les machines qu'on souhaite rajouter. On fait importer et de suite, on a la liste de toutes les machines qui sont rajoutées dans l'interface. Donc, c'est une solution qui se déploie très, très facilement. Une interface web, super simple à utiliser. Voilà, c'est à se demander. D'ailleurs, je leur ai posé la question. Je leur ai dit, mais pourquoi maintenant ? ça fait.
C'est vrai que ça arrive en fait.
Et alors, la réponse ?
Il y a un autre sujet qui me surprend un peu. C'est justement à l'épisode 46 de IT Cash, j'en avais parlé. C'était un service Azure qui s'appelait Server Management Tool,
oui,
était en preview, qu'on pouvait de la même manière déployer. On déployait une petite gateway pour s'interfacer avec nos serveurs on-prem. On avait, ok, peut-être pas toutes les fonctionnalités qu'on peut retrouver dans Honolulu, mais on avait quand même toute cette interface web de gestion et tout ça. Et ben, ils l'ont retiré le 30 juin 2017. Personne l'utilisait, le truc. Hein.
Mais ça, c'est là-bas, le problème, c'est que c'est pour les gens qui n'ont pas Azure, en fait. C'est-à-dire que effectivement, cette solution-là, on en a discuté avec mon client, et en fait, il y a d'autres clients qui ne souhaitaient pas, si tu veux, avoir des services dans le cloud. C'est comme ça. C'est pour ça que, justement, je pense sincèrement qu'ils ont mis ça en place, du mode on-prem, du full on-prem, pour une fois qu'ils s'occupent un peu du cloud data center management. Donc, c'est cool, parce que c'est vrai qu'en ce moment, c'est quand même full Azure, full Office 365. Du coup, je pense que le fait que... Azure peut être bloquant dans certains cas, bien sûr, je dis bien dans certains cas chez certains clients. Et puis, vous avez aussi le Security Office, des fois, qui n'autorise pas ce genre de... Malgré tous les arguments que vous donnez, hein, qui n'autorise pas ce genre de pratique d'avoir donc une gateway, enfin, de gérer à partir du cloud. Mais effectivement, là, on se concentre vraiment, on revient sur le on-prem. Effectivement, moi, je trouve que c'est un peu trop tard à mon goût par rapport à ce que tu disais, Maxime. Parce que je pense que quand même, à partir de 2012 R2, on aurait pu déjà unifier un peu cette console, déjà au moins au niveau de la virtualisation avec Hyper-V et CVMM, etc., pour avoir quand même quelque chose de plus joli et surtout de plus fonctionnel. Donc voilà. Alors après, en termes de browser, en fait, ce que tu disais, Jeff, je rebondis là-dessus. Attention, pour l'instant, IE, c'est le comble, IE ne fonctionne pas avec Honolulu. Enfin, c'est-à-dire que quand vous l'installez, si vous lancez avec IE, vous allez avoir un beau message d'erreur, mais c'est normal, ils sont en train de faire des tests, etc. dessus. Par contre, vous pouvez utiliser du Edge, du Chrome, du Firefox, etc. Voilà.
Pas de Firefox.
Le support d'IE, c'est pas obligatoire. Le support d'IE n'est pas obligatoire. J'insiste.
Juste excuse-moi, mais sur les Windows Server, t'as pas trop le choix, quoi.
Ouais, mais tu peux manager ton Windows
Server. Non, mais sur Windows Server, mais après, tu sais, tu peux l'attaquer. Tu mets l'adresse IP, tu te connectes à partir de ton client. C'est une interface web. Hein.
Ouais, donc, tu vas quand même y accéder aussi depuis des serveurs d'administration.
Bien sûr,
aussi. Ouais, c'est très rare d'y attaquer via un client en direct, quoi.
Alors, chose qui est super importante aussi, et c'est là aussi que fait toute la force du produit, c'est qu'il n'y a pas besoin d'installer des agents. C'est pas besoin d'agent, il n'y a pas besoin de deux IS, il n'y a pas besoin d'une base de données, enfin, il n'y a besoin de rien, quoi.
Ouais, il fait juste du get et récupère les infos et
Oui, c'est ça, c'est tout à fait. Donc, c'est du ONRM sur PowerShell, donc c'est nickel pour justement, ça simplifie justement la partie administration, tout ça.
Et du coup, en termes de ressources minimales pour déployer le Bouza, là, il faut quoi?
Moi, je l'ai déployé sur une machine avec moins d'un giga de RAM, ça passe.
Les prix officiels de Microsoft, c'est toujours pareil, mais c'est minimum 4 gigas de RAM, des choses comme ça. Mais effectivement, moi, je l'ai installé sur 2 gigas, sur plusieurs. Enfin, j'avais genre plus de 50 serveurs à administrer. Sincèrement, il n'y a pas de souci, quoi.
Donc, j'ai deux questions pour les gens qui l'ont testé, donc Étienne et Céphala. D'abord, c'est la machine qui est la fameuse gateway, là, c'est celle qui sert également de serveur web, du point de vue de l'architecture.
Que tu attaques, du coup.
Oui, bien sûr.
D'accord.
En fait, donc, qui nous coûte sur un certain port. Ce port-là, tu le définis lors de l'installation. Bien sûr, après, il te faut un certificat. Soit tu l'autosignes, soit tu le SSL, soit tu le cherches de PKI, des choses classiques. Et puis, tu l'attaques, du coup, à partir de ton...
Okay.
Soit du serveur lui-même, soit d'un autre serveur.
Et deuxième question, donc, comme je ne l'ai pas testé du tout, est-ce que ça reste toujours une console pour administrer des serveurs individuels en interactif, ou est-ce que ça apporte quelque chose en termes d'automatisation et de traitement de masse?
Alors pour l'instant, tu n'as rien en fait de ce côté-là. À chaque fois que tu vas rajouter un serveur, tu vas gérer ce serveur quand tu vas dans l'interface. Tu gères un serveur, pas un serveur.
D'accord. Pour l'instant.
Par contre, il y a un point qu'on n'a pas abordé du tout, c'est la partie extension. En fait, dedans, il y a un moteur. Donc tous les dès qu'on l'installe par défaut, en fait, tout ce qu'on a, c'est des plugins. Donc tout est géré en plugin, et donc en fait on a déjà la possibilité de pouvoir ajouter un feed nugget. Donc pour ceux qui connaissent pas, c'est juste des packages pour les installer plus facilement, que les développeurs aujourd'hui ils utilisent beaucoup. Mm-hmm. Et donc l'idée, c'est de juste rajouter ces extensions, et de ce que j'ai regardé dans ce qui est disponible quand on l'installe, c'est qu'en fait on a juste du JavaScript donc en Webpack, et avec dedans il exécute tout le PowerShell à ta place. depuis la Gateway.
C'est un bon relais, quoi.
C'est, ouais, ça, c'est un super relais, donc je pense que d'après ce que je vois, la complexité a pas l'air, enfin ça a pas l'air hyper complexe à faire, même si pour l'instant il y a rien de public. Je pense que les extensions, il va y en avoir plein de bien sympathiques. Je vois bien des intégrations avec les outils des constructeurs pour gérer les serveurs physiques, ou pourquoi pas même aussi aller chercher toutes les machines qu'on a dans Azure pour pouvoir gérer tout de façon centralisée, parce que c'est vrai que côté IaaS on n'a pas ça.
Ça. Et donc surtout aussi la partie pour ce sujet, Etienne, c'est la partie aussi tu vas avoir d'autres, si tu veux, d'autres techno, enfin dans le sens SQL, du SQL Server, des choses comme ça. Je pense que ça va vraiment prendre de l'ampleur. C'est encore tout neuf bien sûr, mais je pense que dans l'avenir ça va être bon.
Alors je ne sais pas si vous avez pu le tester, pardon, mais c'est clair qu'ici nous la démo qu'on a eue, on a dans la console l'intégration de PowerShell. Ainsi que l'intégration du remote desktop. Donc directement depuis la console web, possibilité de faire lancer du PowerShell et possibilité donc de lancer le remote desktop sur les machines distantes.
Ouais, tout à fait. Ouais.
Ça, je l'ai pas encore.
Ouais. Par contre, attention.
Donc, c'est des choses qu'on avait déjà mais qui ont été intégrées, quoi.
Donc en termes d'authentification, alors ce qui est bien, c'est qu'il y a plusieurs options. Donc soit vous êtes en workgroup. Si vous avez des serveurs en groupe, donc bien sûr, il va falloir toucher votre trusted host justement pour pouvoir donc autoriser les serveurs que vous voulez administrer. Soit vous êtes dans le domaine, donc là du coup, on va dire plus ou moins si vous avez un compte avec des privilèges, il n'y a pas de problème. Ou soit alors si vous avez du LAPS, donc à la Microsoft LAPS, vous avez également, donc vous pouvez utiliser les crédentiels de LAPS pour pouvoir faire ça. Donc sincèrement, en termes de crédentiels d'accès, en termes d'authentification, ils ont fait un effort là-dessus également pour pouvoir justement proposer plusieurs choix pour justement le signing. Donc ça, c'est pas mal.
Ouais, alors par contre, sur la partie credential, moi j'ai fait des tests entre le workgroup et l'AD, parce que j'ai les deux à la maison. Moi j'ai un Hyper-V, donc en standalone, en workgroup classique, et après j'ai donc un AD virtualisé à l'intérieur. Bon, c'est pour la maison, donc on s'en fout, c'est pas très grave. Et en fait, les credentials, ils sont pas forcément persistants d'une session à une autre. Donc je pense que ça doit être un bug, parce qu'en fait, si tu ajoutes ton serveur et que tu te plantes au départ, derrière, en fait, à chaque fois, il va te redemander les identifiants pour chaque serveur.
Bah après, enfin moi, je l'ai pas eu parce que moi j'étais dans le domaine, hein, donc je suis dans mon domaine. J'ai rajouté plusieurs serveurs, mais pas avec la technique du Jeff, c'est-à-dire avec le fichier. Mais j'ai essayé de m'amuser un petit peu de tester des différents scénarios. Enfin, dans le domaine, effectivement, par contre, ça se fait de manière naturelle. Donc, et en plus de ça, ce qui est bien, c'est que tu peux, une fois t'avoir enregistré, si tu dis tiens, j'ai envie de changer de crédentiel, tu peux également le faire avec le Manage As. Et puis après, du coup, tu vas choisir un autre compte avec ton domaine, etc.
Ouais, bah par contre le problème des credentials, donc ça c'est quelque chose qui est apparemment référencé, donc je pense qu'il y aura un correctif qui sera publié assez rapidement là-dessus. Et sinon il y a aussi énormément de choses intéressantes qui sont remontées dans le User Voice. Donc si jamais vous avez pas fait de tour dedans, allez-y parce qu'il y a franchement des bonnes idées dedans. Je parle pas forcément des miennes parce que j'en ai mis plein, mais il y en a vraiment plein de sympas. Avec vraiment beaucoup d'idées, je pense que ça peut être un super produit pour justement redorer un peu le blason de l'infra, que ce soit on-prem ou en Azure, mais sur de l'infra pure et pas sur du pass.
Et du coup, s'il y en a qui veulent se lancer dans le dev d'extension, est-ce qu'il y a déjà un SDK? Est-ce que c'est dispo? Pas encore dispo? Comment ça marche?
Le SDK va pas tarder, alors il est dispo pour certains, mais sinon il va pas tarder à être mis en preview. J'ai une roadmap qui va arriver là, attendez deux petites secondes, tant que je la retrouve.
Disons qu'il y en a qui
ont les infos en direct hein, quand même. Attention, hein, il y en a qui sont sur place.
Hein. Il y en a qui ont de la chance. Hein. Mais bon.
On peut pas faire mieux.
Ouais, directeur. Je vais pas voir la date.
Moi par contre, j'ai eu l'info sur Twitter, c'est qu'en fait, si actuellement t'es pas enregistré dans le programme Windows Server Tap, t'as pas accès au SDK, enfin, pour l'instant il est pas public quoi.
Oui, pour l'instant c'est en private preview, effectivement pour le TAP il...
Voilà, donc ce qu'il dit c'est Early Alpha SDK in private preview.
Ok.
Cool.
On l'attend.
Donc du coup, pour ceux qui veulent le tester, le lancer, c'est simple, vous tapez Honolulu Project sur Google, c'est simple, vous prenez le premier lien et vous vous lancez, il y a de la doc. Il y a de la doc officielle également de Microsoft qui a été enrichie aujourd'hui, d'ailleurs ils ont fait des modifications aujourd'hui. Et puis bah vous téléchargez le MSI en public preview et puis bah vous pouvez déjà tester soit à la maison, soit dans un environnement de lab ou de dev au sein de votre entreprise, ce qui vous permettra déjà d'appréhender le produit et puis surtout de tester un petit peu les fonctionnalités qui pourraient vous intéresser dans le futur.
Voilà, on va mettre tous les pointeurs sur le site, également ton article Cephala et ton article Étienne sur le sujet.
Bon. Et puis l'Ignite, c'est pas que ce machin quand même, parce que on s'extasie devant une interface d'admin et de management, mais il y a eu quand même beaucoup d'autres choses à Ignite.
Il y a eu plein d'annonces. On a eu une keynote de Satya qui nous a présenté, on va dire, le futur du futur. C'est en gros l'intelligence artificielle partout. Il y a eu sur le plateau, il y a eu une table ronde donc qu'il a menée avec aussi des physiciens, des mathématiciens et une docteure en informatique aussi sur les ordinateurs quantiques. Donc ça, c'était du stratosphérique, on va dire. Et suite à ça, on a eu des keynotes vraiment techniques. Et entre autres, moi, j'ai participé à celle de Scott Guthrie. Et là, on a vu des choses, on peut dire, assez exceptionnelles, autant en termes d'IT, de monitoring, donc les évolutions de PowerShell, Azure CLI et compagnie, toute la partie sécurité, donc il y a un très très gros focus sur la sécurité. Alors c'est pas mal parce que avec la GDPR qui va nous tomber dessus dans quelques mois, là il y a plein de choses qui sont basées là-dessus. Et côté dev aussi, moi j'ai vu un truc, même si je suis pas un dev, j'ai un truc qui m'a assez scotché, la possibilité directement depuis Visual Studio, Xamarin, de connecter son device Apple, de télécharger l'application sur le device et de faire du debug en direct avec son device. Donc en gros, on a son Apple qui est connecté, on a l'application qui est dans Visual Studio, on change un bout de code, par exemple, pour changer le fond d'écran, tout de suite, dans l'application qui est chargée sur l'iPhone, l'application se met à jour. Voilà, donc ça, c'est assez bluffant comme truc. Mm-hmm. Après, effectivement, il suffit d'aller sur Twitter, de suivre le hashtag MSIgnite, et il y a plein d'annonces, beaucoup d'annonces aussi, tout ce qui concerne Office 365. Alors maintenant, on parle de Microsoft 365. Hein.
Ouais.
Donc énormément d'évolution. Quelque chose qui a pas mal fait le buzz aussi, c'est l'intégration Teams, qui devient maintenant l'interface privilégiée pour tout ce qui est collaboration. Donc avec l'intégration de la téléphonie et de la voix directement dans Teams. Donc ça, c'est pas mal. Et puis l'annonce aussi des futures versions d'Exchange et SharePoint. Voilà.
J'ai
et
vu
tu
beaucoup
as aussi,
de...
je sais pas si tu as vu la nouvelle, Jeff, c'est le changement de logo d'Azure.
Ah oui.
Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus? Comment vous l'avez ressenti là-bas, Orlando?
Ça ressemble à Paris 2024. Hein,
pour ne dis pas ça.
Alors,
non, pas jusque-là.
Vous aurez l'occasion de le voir OMS Experience, puisque j'ai un magnifique t-shirt avec ce logo. Voilà, mais effectivement, un logo Azure qui est assez sympa.
Ouais. Un peu, il ressemble à celui d'Office dans le style.
Ça nous a pas traumatisé plus que ça.
Bon, après, c'est subjectif. Hein.
Alors, à propos d'Azure, il y a eu beaucoup de nouveautés. Hein. Tu me confirmes peut-être, Jean-François, sur le management des VM.
Ouais.
Notamment l'accès aux updates, tout ce qui est management des VM, depuis le portail.
Voilà, je suis très orienté sur tout ce qui est management, monitoring et sécurité. Donc, c'est vrai que c'est jusqu'à là, toutes les sessions que j'ai suivies étaient vraiment là-dessus. Donc le portail Azure va être vraiment le point central pour énormément de choses, et entre autres effectivement pour tout ce qui est la gestion, il y a des évolutions qui arrivent. Alors si vous connectez à votre Nantes Azure, elles sont déjà accessibles, même s'il y a marqué preview, mais effectivement c'est la possibilité de faire du change tracking, de faire toute la partie update, de faire toute la partie backup, directement depuis le portail. Vous avez votre VM. Et dans la colonne de gauche, là, tout ce qui est possible de faire, voilà, on pourra le faire directement. Donc ça, c'est une grosse chose. Et puis, comme je disais, il y a un gros focus sur la sécurité. Donc effectivement, avec le portail, il y a la partie Azure Security, avec un petit scénario que j'aime bien finalement, puisqu'on a les alertes qui vont remonter. Et lorsqu'on a une alerte de sécurité qui remonte, en cliquant dessus, on va tomber sur un graphe qui va nous permettre de faire une analyse de, et un diagnostic de ce qui s'est passé. Voilà, donc sous forme graphique, on va retrouver les adresses IP, quels logins ont été utilisés, et c'est en forme de graphe, donc on va cliquer dessus, on va avoir, encore avoir d'autres infos. Ça, ouais, c'est pareil, c'est en preview, mais c'est quelque chose qui est très 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 sympa.
Ça, c'est le bouton Investigate ou Investigation, et c'est disponible, hein, j'ai vérifié tout à l'heure, c'est disponible sur...
Moi je l'ai, j'étais dans la session, j'étais sur Montenante et je testais tout ça, et voilà, j'ai fait pas mal de tweets là-dessus avec des copies d'écran. Ça c'est très sympa.
Et Jeff, une question justement à propos de l'Ignite pour les personnes qui nous écoutent, comment ça se passe en fait pour y aller, est-ce qu'il faut s'inscrire, est-ce que c'est payant, combien ça coûte, etc. Est-ce que tu peux nous éclaircir un petit peu sur le sujet, peut-être parce qu'il y a des gens qui sont peut-être intéressés l'année prochaine, des choses comme ça.
Alors oui, c'est ouvert à tout le monde, hein.
D'accord.
C'est une conférence mondiale ouverte. En gros, il y a trois gros événements Microsoft dans l'année. On a celui de l'été pour les partenaires, on va dire. Ensuite, on a la Build pour les développeurs et l'Ignite qui est plus pour la partie IT Pro. Okay. Donc, c'est un événement complètement open puisque là, les chiffres annoncés, c'est 25 000 personnes. Hein, donc, ça fait c'est pas mal déjà. Et puis, il suffit de s'inscrire. Et puis, après, c'est payant ou en fonction du statut que l'on a. L'entrée peut être prise en charge. Mais du coup, c'est ouvert à tout le monde. Hein. Il n'y a pas de...
D'accord.
Il n'y a pas de prérequis. Il y a rien,
c'est quand même payant. Hein. C'est pas donné. Hein.
Oui, alors, c'est vrai que moi, j'ai eu le... Voilà, moi j'ai pu être invité, donc ça fait partie des quelques privilèges que j'ai.
Non, mais à la base, oui, c'est quand même payant. Et puis, faut payer l'hôtel, faut payer
l'avion,
le transport et l'entrée. Donc,
ça fait un sacré budget, mais par contre, il y a un paquet de sessions de niveau 300 et 400. Quoi, donc,
il y a un super héroïque, quoi.
C'est pas mal, quoi, parce que quand on regarde si on compare avec le prix d'une formation, d'une semaine de formation,
pareil.
Alors c'est pareil, hein, vous avez le déplacement, vous avez l'hôtel, vous avez le prix de la formation, c'est moins cher qu'une formation d'une semaine à Paris, quoi.
C'est clair.
Préciser également que si on n'a pas l'occasion d'y aller, il y a le site de MS Ignite qui retransmet en direct les keynotes et pas mal de sessions en parallèle.
Ouais. Ça, c'est bluffant.
Il y a eu un gros effort de fait là-dessus. Ouais.
Puisque toutes les sessions sont retranscrites. Donc, pendant la session, c'est retranscrit dans une douzaine de langues.
Ah oui, en plus, oui.
Donc, donc ça utilise les nouvelles fonctionnalités Cognitive Services et compagnie. Là. Donc, toutes les sessions, vous avez la retranscription dans la langue qui vous intéresse. Alors, comme j'ai dit, c'est une douzaine de langues. Donc, ça, c'est pas mal.
C'est Star Trek. qu'est-ce qui t'a autre chose à raconter sur Ignite, Jean-François?
Comme je disais, c'est immense parce que le centre de convention, pour accueillir autant de personnes, on utilise deux bâtiments, mais les bâtiments sont assez éloignés l'un des autres. Donc en gros, ce qu'il faut, précision et petit conseil pour ceux qui souhaiteraient venir à Ignite ou à ce type d'événement l'année prochaine, il faut prévoir les baskets, ça c'est obligatoire. Parce qu'on marche, beaucoup, hein. Je pense qu'on fait au moins 15 km dans la journée pour passer d'un bâtiment à l'autre et des sessions aux autres. Et il faut prévoir aussi les suites, parce que même s'il fait 32 degrés dehors, dedans il doit faire 18 degrés, la clim est à fond. C'est vraiment les trucs à ne pas oublier, quoi.
Tout à l'heure, tu en as parlé rapidement de la petite table ronde pendant la keynote de Satya sur le quantum computing. Est-ce que tu as compris quelque chose? Parce que moi, non. Rien compris. À part que c'est balèze.
Après, effectivement, enfin, je ne sais pas si ceux qui auront l'occasion, enfin ceux qui l'ont vu ou qui auront l'occasion de revoir la keynote, il y a une démo que Satya présente avec l'ordinateur qui essaie de résoudre un labyrinthe. Et ça démontre totalement la différence entre un ordinateur classique et un ordinateur quantique. C'est-à-dire que l'ordinateur classique va essayer tous les chemins un par un. Et donc, il va mettre un certain temps pour arriver à trouver la solution. Le quantique, lui, va tous les essayer en même temps. Voilà. Et du coup, la solution, elle va être quasi immédiate, quoi. Bon, après, c'est basé sur des concepts de physique quantique, comme quoi la particule peut être à plusieurs endroits en même temps. Mais il ne faut pas l'observer, sinon on perturbe. Voilà. C'est en gros.
Le cas du chat de Schrödinger.
D'incertitude
d'Heisenberg et compagnie.
Oui, voilà. C'est ça.
Ce qui est intéressant par contre dans tout ça, c'est que bien que l'ordinateur n'existe pas encore, on travaille dessus évidemment avec tous ces gens-là, le langage, et je ne sais pas s'il y a un SDK, mais en tout cas, on a de quoi écrire du logiciel pour, et voir, et bientôt le simuler.
Qui est fait pour ça, ouais. Ça c'est effectivement.
Et bientôt émuler ou simuler un ordinateur quantique dans Azure. Bientôt.
Tout à fait. Alors après, c'est vrai que du coup, après, ça rejoint aussi l'intelligence artificielle. Et on voit que dans tous les produits, dans tout ce qui est montré, on a l'intelligence artificielle qui est de partout. Voilà, je parlais tout à l'heure de la sécurité. Pour de l'analyse et de la collecte de logs, et ainsi de suite, et du prédictif. Voilà, en dessous, c'est vraiment de l'intelligence. Ce sont des moteurs d'intelligence artificielle. Et finalement... ça va rendre énormément de services lorsqu'on va avoir une faille, lorsqu'on va avoir une alerte, lorsqu'on va avoir ce genre de choses-là. Très rapidement, on va pouvoir savoir d'où ça vient, faire de la corrélation, ainsi de suite. Donc ça, l'IA, on pense à l'intelligence artificielle pour les robots, pour les machins, pour tout ça. En définitive, là, on l'a en dessous, sur les couches basses. Voilà, c'est une très grosse évolution. On voit que clairement, tout va vers là, quoi.
Alors moi, j'ai vu un truc tout bête sur la partie IA. Sur machine learning plus spécifiquement d'Azure, c'est qu'apparemment ça va être intégré dans Excel là directement. En fait, on pourrait utiliser directement des fonctions de machine learning dans les tableaux Excel. Je sais pas si vous avez vu la news.
Ça, j'ai pas eu l'occasion
j'ai
de l'avoir.
J'ai pas vu ça. J'ai vu dans Visual Studio Code que le SDK machine learning.
Visual Studio Code.
Parce qu'il y avait. Il y avait qu'une version graphique de la chose dans le portail qui n'était pas. Qui n'était pas ce que les gens, que les professionnels de la data science attendaient pour du machine learning, et donc on a répondu avec un nouveau SDK, un nouveau machine learning dans Visual Studio Code et Visual Studio, je pense.
Ouais, je pense, ouais.
Intégré à Python et compagnie, quoi. Mais bon, là on sort un petit peu de notre cadre habituel. GDPR, tu en as parlé rapidement, Jean-François, avant de partir.
Ouais. Alors effectivement, GDPR, c'est gros sujet d'actualité. Je travaille beaucoup dessus en ce moment. On commence à faire tout un tas de choses sur le sujet. GDPR, ça va commencer le 25 mai 2018, parce que c'est pas, comme on dit toujours, par rapport, on a tendance à comparer un petit peu ça avec le passage en l'an 2000. Certains autour de cette table virtuelle l'ont vécu, d'autres n'étaient peut-être pas encore nés, mais c'est vrai qu'il y a eu tout un temps pour se préparer, ainsi de suite. Par contre, le passage à l'an 2000, c'était un jalon. Une fois que c'était franchi, il n'y avait plus rien, quoi. Voilà. Alors que là, ça ne fait que ça commencera le 25 mai, et c'est après qu'il va y avoir aussi énormément de travail. Donc toutes les entreprises vont devoir se préparer, puisqu'à partir du 26 mai, il faudra avoir mis en place tout ce qui concerne la protection des données personnelles. Il y a de l'humain, il y a du processus, il y a de la documentation, mais il y a aussi de la technique, puisque les DSI vont être les premières impactées par le sujet. Donc pour mettre en place tout ce qui va garantir qu'on protège les données, qu'on assure la traçabilité, qu'on donne le droit à la personne d'aller modifier ces données, la possibilité aussi rapidement de pouvoir les sortir du système d'information, et puis en cas d'alerte, être informé, puisque les entreprises auront 72 heures pour déclarer une fuite de données, et être capable de démontrer que toutes les mesures ont été mises en place pour être informé, mais aussi pour arrêter la fuite. Voilà. Donc côté Microsoft, nous avons énormément de solutions qui sont déjà prêtes, non seulement qui sont déjà prêtes, mais même pour la plupart, les clients ont déjà les licences. Donc c'est simplement des fonctionnalités à activer, soit pour protéger les données en amont, par exemple en l'encryptant avec Azure Information Protection, soit aussi pour assurer toute la partie traçabilité. Qui tente d'accéder à la donnée, est-ce qu'il y a eu usurpation d'identité, être informé en cas de fuite, pouvoir agir très rapidement en cas de besoin. Voilà. Et puis du coup, on va disposer de tout un tas de tableaux de bord. Donc, on va en trouver dans la partie Azure Security, mais aussi dans la partie tableau de bord qu'on a aussi maintenant dans la Security Compliance d'Office 365. Et on va même avoir un tableau de bord spécifique GDPR pour savoir si on est compliant ou pas.
D'accord.
Donc là, il y a énormément de briques entre Azure, entre Microsoft 365, donc qui inclut maintenant EMS. Voilà, là il y a tout un tas de choses. Et comme on dit, c'est que la plupart des clients ont déjà les licences. Donc c'est simplement des fonctionnalités qu'il faut leur faire découvrir et mettre en place pour être compliant.
Bon, il faudra qu'on fasse un épisode spécial GDPR avant le mois de mai.
Là, on a beaucoup de... On a vraiment... je pense qu'on pourra, on pourra y consacrer au moins 3-4 IT casts.
Mais ça serait bien d'en faire afin de justement guider un peu les gens qui...
Ouais.
C'est vrai qu'il y a quand même pas mal de questions autour de ça, et pas forcément les gens, peut-être qu'ils n'ont pas eu le temps de s'y intéresser, ou ils n'ont pas trop la connaissance par rapport à ça. Donc ouais, ce serait bien de...
La plupart des clients que je rencontre, ils se disent, ils en ont entendu parler. Alors, il y en a qui sont déjà prêts, hein, parce que c'est quand même pas non plus, mais d'autres en ont entendu parler. Ils se disent, c'est du légal, donc c'est dans la main des juristes, donc c'est pas pour nous. Alors qu'en définitive, la DSI est en première ligne, hein, parce qu'on va parler de la data. Alors, chose importante aussi, hein, c'est réglementation européenne sur la protection des données personnelles.
Oui.
Donc, par définition, tout ce qui n'est pas données personnelles n'est pas dans le périmètre. Donc ça, c'est la bonne nouvelle. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de mettre ça sur toute la documentation de l'entreprise. C'est uniquement la donnée personnelle. Et la donnée personnelle, suivant la définition de la CNIL, c'est tout ce qui permet d'identifier une personne physique et pas une personne morale. Donc les données de sécurité à destination des entreprises, vous avez là, une entreprise cliente ou ce genre de choses-là, ça ne rentre pas dans le périmètre. Puisque ce sont vraiment les données personnelles et c'est ce qui permet d'identifier une personne physique. Donc son nom, son numéro de sécu, sa carte bleue, il faut pas. D'ailleurs, c'est la première chose qu'on fait quand on met en place tout ce qui va être nécessaire pour être compliant. La première chose que l'on fait, c'est une étude sur identifier déjà les données personnelles. S'il y en a des données personnelles dans le système d'information, à quel endroit elles sont et quelles sont les applications qui les traitent. Et on se concentre là-dessus. Le reste, alors évidemment, si on sécurise le reste, tant mieux. Mais c'est pas obligatoire.
D'accord.
Merci beaucoup, Jean-François. Tu as une présentation dans 10 minutes, je crois.
Parce que j'ai une session qui va démarrer dans pas longtemps. Donc,
ouais. Donc merci.
Excuse-nous, nous on va rester derrière notre micro.
C'est ça.
Merci d'être venu, en tout cas, nous parler de tout ça. Et puis
allez,
bonne fin de l'Ignite.
À tous et à bientôt.
Merci
et
à toi. Bonne soirée.
On se retrouve la semaine prochaine au MS Experience. Aussi,
exactement.
Oui.
Et entre autres, pour ceux qui écoutent cet épisode et qui veulent entendre parler de la sécurité de la GDPR, la communauté CMD sera présente pendant les deux jours sur le site et sur le stand de Trust de Microsoft, justement pour répondre à tout ce qui est question sur la sécurité. Utilisation des fonctionnalités d'Office 365, d'Azure. Donc la plupart des participants à cet ITcast seront là. Vous nous reconnaîtrez, on aura des polos avec un magnifique logo CMD.
Ouais, et moi je fais une session dédiée à la sécu Office 365 sur le Secure Score et l'accès conditionnel le deuxième jour. Donc vous attendez nombreux aussi.
Allez,
message passé.
Le deuxième jour avec Mr. Stanislas, on fait une session sur l'infrascode dans Azure avec des outils open source.
Ah, moi j'aurais aussi une session sur un retour d'expérience sur la mise en place de DevOps. Voilà, à 16h. C'est un client qui a. Ok, il est passé à DevOps et maintenant, ça s'appelle comme ça la session. C'est une fois qu'on a choisi, c'est quoi la réalité quoi. Bon, la bise à tous et à bientôt.
Ouais.
Allez, à plus.
Ciao, Jean-François. Merci Jean-François. Salut. Ok, Michael. Tu voulais nous parler d'Office 365 rapidement,
les
nouveautés.
Il y a des choses qui sont passées. Donc du coup, Skype et Teams aujourd'hui, on en a entendu parler juste un peu avant avec Jeff. Il y a effectivement aussi un portail d'admin qui sera du coup créé exclusivement pour ça, donc qui apparaîtra dans Office 365. Moi, il y a vraiment une fonctionnalité aujourd'hui qui me plaît énormément, c'est le multi-géo. Donc en fait, dans Office 365, quand on crée son tenant, toutes les données sont sur le site géographique choisi. Donc, c'est-à-dire que, par exemple, aujourd'hui, on crée la notion monotenante en Europe. toutes nos données vont être en Europe. Donc même si on a des filiales en Australie ou aux États-Unis, les bases exchange vont être en Europe. Et donc du coup, ça peut inclure des petites latences ou des effets de bord, surtout si on a des utilisateurs par exemple en Chine. Et ça, c'est du vécu et on avait des soucis. Et Microsoft aujourd'hui disait faut partir sur des modèles un peu plus multi-tenantes. Donc en fait, on avait 3 ou 4 tenantes dans le monde et il fallait gérer un peu les utilisateurs avec des migrations de tenantes à tenantes quand ils changeaient de site. Voilà, aujourd'hui, il y a la fonctionnalité qui apparaît, qui est donc le multi-geo capabilities dans Office 365. Et qu'est-ce que ça permet? Ça permet tout simplement de créer un peu des sites satellites dans lequel on va pouvoir dire, tu appartiens aux tenantes en Europe, je le sais, mais les données de ces, par exemple, 100 ou 200 utilisateurs, ces utilisateurs-là, ils sont australiens, tu me les mets dans le site en Australie. Et donc ça s'appuie complètement sur les sites Azure, il n'y a pas de secret là-dessus. Et donc ça, c'est une fonctionnalité vraiment que j'attendais particulièrement, en tout cas. Après, je ne sais pas si c'est le cas d'autres autour de cette table, mais je sais qu'il y a des clients qui l'attendaient beaucoup.
Ouais, c'est clairement un sujet, énorme pour tous les clients internationaux. Hein, parce qu'à l'époque, on se posait la question, est-ce qu'on fait du multi-tenant, est-ce qu'on fout tout à l'intérieur. Il fallait expliquer quand même aux clients que malgré le fait que les données étaient en Europe, alors que mon utilisateur est en Chine, on passait quand même par le backbone Microsoft, mais on utilise aussi les CDN un petit peu de partout. Enfin voilà, c'était assez compliqué. À expliquer et c'était pas non plus une solution parfaite, je pense.
Oui, c'est ça. Et puis quand on était en scénario multi-tenante, il faut pas oublier que du coup ça rajoutait un peu une complexité, mais une charge en fait, puisqu'il y avait différents admins. On pouvait bien sûr se rajouter entre tenantes. Enfin voilà, il y avait tout un petit process et donc là, non, ça change. Et donc il y a deux services qui vont être en preview. Ça va être Exchange Online et OneDrive. Donc là, qui vont être vers 2018, et SharePoint aussi. Et donc là, du coup, c'est vraiment... aujourd'hui, c'est Exchange Online et OneDrive, et vraiment, en GA, ils espèrent que ça soit pour 2018. Donc c'est vraiment pas mal. Donc ça, je pense que vers 2018, il y aura un gros changement sur les infrastructures des clients internationaux dans Office 365, avec vraiment une décision aujourd'hui de venir sur un modèle monotenante avec des sites satellites. Donc ça vraiment,
je te le confirme parce que je suis dans un projet Office 365 depuis à peu près maintenant 4 mois, donc je fais que ça depuis 4 mois à peu près. C'était pas ma tasse de thé au départ, mais finalement c'est trop kiffant, n'empêche, mais effectivement moi je suis un client, sincèrement, on a énormément de sites. Juste pour vous dire, il y a plus de sites, ce client-là a plus de sites que de McDo dans le monde, hein, donc ils sont vraiment partout.
Donc c'est pas McDo.
Et sincèrement, le multijou, en fait, il s'y intéresse. Et là, effectivement, ça va vraiment apporter un plus et en termes de design et surtout en termes de fiabilité, en termes d'accès, etc. Ça va être vraiment quelque chose d'ultra intéressant pour la partie, surtout pour la partie OneDrive et Exchange Online, effectivement.
Voilà. Donc,
bonne nouvelle, très bonne nouvelle.
Voilà, ça, c'était vraiment le point que je voulais aborder.
En termes de plaque, juste parce que je la lis sous les yeux.
Moi aussi.
Je pense qu'on est sur le même temps. Hein.
Vas-y, je t'en prie, Maxime.
Ouais, donc, tu as Australie, Asie-Pacifique, Canada, l'Union Européenne, l'Inde, le Japon, la Corée du Sud, la Grande-Bretagne, les États-Unis et bientôt la France. C'est surtout ça dont je voulais parler. La France arrive bientôt parce qu'on sait tous qu'on aura bientôt des data centers Azure en France.
Voilà, donc ça, c'est le premier gros point. Ensuite, le deuxième, alors pour ceux qui ont vu notre session il y a un an, Maxime, on avait parlé des administrative units dans Azure AD.
OMS Experience de l'année dernière.
Exactement. Et donc, du coup, en fait, pour ceux qui ne voient pas trop ce que c'est, les administrative units vous permettent de cibler un droit sur un nombre d'utilisateurs spécifiques. Typiquement, aujourd'hui, si vous avez un rôle helpdesk, vous avez un rôle helpdesk pour l'ensemble des utilisateurs qui sont dans votre tenante. Grâce aux administrative units, vous allez pouvoir cibler et reproduire un peu les délégations que vous aviez dans votre Active Directory, donc on-prem. Et ça, c'était une fonctionnalité qui était disponible uniquement en PowerShell. Alors ça, je l'ai un peu implémenté chez certains clients et c'était un peu compliqué à gérer parce que tout était en PowerShell. On avait un peu, c'était pas vraiment très simple à pouvoir bien visualiser la chose. Et bien du coup, ça arrive dans le portail. avec vraiment une modification dans le portail pour vous permettre de voir où, où sont vos différents administrative units, quelles sont les cibles, etc. Donc ça aussi, c'est la deuxième big news. C'est important pour la sécurité, puisque effectivement, la délégation, c'est important. Et on évite de donner du coup des droits à tout le monde pour tous les utilisateurs. Donc voilà, ça c'était le deuxième point. Et le dernier point, c'est que dans Office 365, enfin plutôt dans le portail admin, on va pouvoir avoir en fait des petits guides, des assistants selon des tâches spécifiques que vous allez avoir. Alors, vous allez me dire quelles tâches spécifiques. La première qui vient à l'idée pour tout le monde en fait, c'est comment débloquer un utilisateur qui s'en va. Voilà, un utilisateur quitte la société, comment on le désactive donc ses accès, qu'est-ce qu'on fait de ses données, etc. Et là, du coup, on va pouvoir avoir un petit guide assisté qui va vous dire, bah voilà, qu'est-ce que tu veux faire. On sélectionne le fait qu'on veut supprimer, entre guillemets, un utilisateur. Donc, il va vous proposer, comment lui bloquer ses accès. Est-ce que tu veux ou pas garder les données OneDrive? Qu'est-ce qu'on fait des mails? Est-ce qu'on transfère les mails? Est-ce qu'on archive la boîte mail, etc. Et donc, ça, c'est... Aussi, ça vient de sortir et il va y avoir plein de petits guides qui vont arriver au fur et à mesure, sachant qu'aujourd'hui, Microsoft attend un peu les retours de tout le monde pour créer des scénarios. Donc voilà, encore une fois, quelque chose de fonctionnel, mais qui intervient encore dans un contexte de sécurité, puisqu'on sait aujourd'hui, et ça c'est important, puisque certaines entreprises l'oublient, quand un utilisateur quitte la société, on doit lui retirer ses accès, sans pour autant altérer ses données. Et donc, du coup, c'est important de suivre les guides avec les bons prérequis en disant qu'est-ce qu'on fait des données, on les supprime, on les archive, on les délègue à quelqu'un. Voilà. C'était les trois points que je souhaitais aborder avec vous ce soir.
Tu n'as pas parlé de Teams aussi?
Teams, c'est... Jeff en a parlé au début, donc du coup, c'est un peu compliqué de revenir dessus, mais effectivement, Teams, Skype avec l'intégration, aujourd'hui, je pense que ça va devenir vraiment l'outil de collaboration Microsoft qu'ils vont mettre en avant. Donc, du coup, toute nouvelle idée qui sortira autour de la collaboration viendra dans Teams. Après, est-ce qu'un jour, ils vont renommer le produit ou pas? Ça, je ne sais pas. Pour l'instant, Teams, ça a l'air de plaire. Donc, on verra bien ce que ça donne.
En tout cas, en interne, hein, chez Microsoft, je peux vous dire que tout bascule sur Teams.
D'accord, donc tu vois. C'est... Après, c'est un truc que je n'ai pas trop creusé. Est-ce que Teams, il est aussi ouvert d'esprit, entre guillemets, où on a autant de possibilités que son très gros concurrent Slack, qui pour moi est un outil que les développeurs adorent parce qu'ils arrivent à faire plein de petites modifs autour. Ils font plein de channels vraiment qui peuvent avoir des notions. Je me souviens chez un client, de quelqu'un qui avait développé une extension pour son Slack. Et en fait, dès qu'on allait sur un certain channel, on tapait une ligne de une petite commande. Et en fait, ça pouvait reset les DNS ou pouvait faire de ce genre de choses. Et donc, du coup, ça, je n'ai pas creusé dans Teams si on pouvait apporter ce genre de choses.
Alors oui, t'as la possibilité, parce que moi, j'ai des collègues qui bossent dessus chez Selenza. Et du coup, en fait, il y a pas mal de possibilités, même autour des bots, autour de plein de choses. Après... Le support côté de ce côté-là est pas forcément je dirais encore ISO périmètre sur tous les aspects. Voilà, il y a encore des petites choses qu'on peut pas faire, mais globalement ça s'améliore de jour en jour, donc on verra ce que ça donne. Globalement ça a l'air de marcher plutôt bien quand il y a le besoin, quoi.
Ok, bon, l'idée c'était vraiment d'en parler un peu. Voilà pour moi.
Merci Mickaël. Étienne ?
Oui.
On va changer un petit peu de... Non ? Si ?
Bah,
un petit peu de domaine avec...
Tous les sujets que j'avais exprimés dans le
petit... Bah, allons-y, hein. Fais-toi plaisir.
Il y a trop de choses à dire, monsieur.
Mais voilà, donc
restons autour d'Azure.
Par Azure Cloud Shell, tiens. Allez,
Azure Cloud Shell.
Quoi de neuf ?
Alors déjà, grosse nouveauté, la plus grosse, on va commencer par la plus grosse, c'est l'apparition de PowerShell dans le Cloud Shell, enfin.
Yes.
On rappelle ce que c'est Azure Cloud Shell, pour ceux qui ne connaissent pas.
Alors le Cloud Shell, c'est le petit bouton qui ressemble à l'icône PowerShell tout en haut à droite du portail, et qui permet en fait de lancer un conteneur dans Azure, de façon cloisonnée pour chaque utilisateur, pour pouvoir exécuter à la base du bash Linux avec les commandes Azure CLI pour son tenant Azure. Maintenant, donc, on a la version PowerShell qui est arrivée, donc pour pouvoir avoir quelque chose de plus cohérent quand on a un administrateur full Microsoft. Donc le PowerShell, enfin de mon côté en tout cas, fonctionne plutôt pas mal. J'ai pas eu de bug particulier. Petite subtilité, on est sur une version assez récente. On est sur la dernière version bêta de la 6. Et on a la possibilité aussi dans le bash Linux, là je suis en train de le lancer en simultané, d'avoir accès à tout un tas de commandes qu'on n'avait pas avant, notamment la possibilité de se connecter en SSH sur les machines qui sont dans Azure, on a la possibilité de contrôler un cluster Kubernetes ou un cluster Docker, on a la possibilité aussi de pouvoir faire du Git pour pouvoir aller cloner ces petits fichiers d'infrascode directement dans le portail Azure sans avoir besoin d'installer quoi que ce soit. Donc là, je pense à tous les prestataires qui sont en mission chez des clients où on n'a pas des droits d'admin pour installer les outils dont on a besoin sur les postes. Et ben là, en fait, il n'y a plus de problème puisque en fait tout est embarqué dans le portail. Alors, c'est pas toujours super réactif, hein, on est sur des techno web, mais globalement, ça s'améliore quand même de jour en jour. Je ne sais pas s'il y en a d'autres que moi qui l'utilisent.
Ben moi, je l'ai testé au moins, et puis par rapport aux premières versions bêta que j'avais testées, déjà l'intégration du stockage persistant, la configuration du stockage persistant et tout ça a été complètement automatisé et c'est le jour et la nuit par rapport aux premières versions bêta quoi. Donc ce qui fait qu'on a un vrai stockage persistant sur notre profil, notre home directory. Donc ce qui veut dire que si on installe des choses et tout ça, bah, ça va persister. Si on développe des scripts, si on a nos templates ARM, tout ça, ça va persister dans cet environnement là.
Ouais, exactement. Et puis du coup, comme tu as accès à du Git, rien ne t'empêche d'aller chercher ton repository où tu as tes petits fichiers de conf habituels pour déployer tes infras. Moi, j'ai regardé, j'ai publié un article là-dessus il n'y a pas si longtemps sur mon blog. Donc, vous pourrez aller regarder un de ces quatre. Mais en fait, il y a vraiment tout a été repensé. On a l'impression pour avoir quelque chose de bien plus avancé. Là, par exemple, je vois, il y a du Python, donc on peut exécuter du Python directement. On peut récupérer ses clés SSH et donc même paramétrer l'agent SSH pour éviter de rechercher ses clés à chaque fois. Il y a vraiment énormément d'outils qui se sont intégrés. J'ai vu par exemple toute la partie PostgreSQL pour pouvoir administrer ses bases de données directement depuis la console. Il y a du MySQL, il y a du Java, il y a vraiment tout. Enfin, je vois pas trop ce qui peut manquer. Comme ça d'un premier abord pour faire de la gestion de machines dans Azure, mais je pense que globalement il manque rien.
Oui, et puis il y a la dernière version de AZ, donc de Azure Cli.
Exactement. Exactement.
Qui est déjà le principal.
Il y a ça, et en plus ce qui est assez rigolo, vous pouvez tester à l'occasion, c'est que si vous êtes dans le bash, vous tapez PowerShell et vous arrivez dans PowerShell.
PowerShell
on
Core.
Arrive en fait sur une version PowerShell .NET Core, et non pas PowerShell .NET standard. Donc il y a des petites différences dessus, donc ça on l'a déjà évoqué avec Mickaël quand on a fait notre petite session rigolote samedi il y a 15 jours là. Donc en fait on est vraiment sur quelque chose de très ouvert là pour le coup, et on a vraiment accès à tout depuis l'interface web avec quelque chose de franchement plutôt pas mal, plutôt très réactif quoi.
Alors je sais pas si nous
ça vaut le coup de l'essayer.
Je sais pas si nos amis de Amazon AWS font la même chose, mais j'ai vu récemment que dans le portail de Google Cloud Platform il y avait un équivalent, mais le nôtre franchement est très complet.
Bah, il envoie du bois quoi.
Ouais.
On peut le dire.
Ouais, c'est clair.
Vraiment, c'est vraiment très complet. Moi, je m'en sers pour gérer des clusters Kubernetes que je suis en train de déployer chez un client. Franchement, c'est vraiment très très pratique, quoi. Je dirais que ça évite d'installer plein d'outils dans tous les contextes qu'on peut rencontrer quand on est en Presta. Là, c'est vraiment super pratique. On sait qu'il y a tout, que directement, comme on est authentifié par le portail, on n'a pas besoin d'aller mettre en place tout un tas de choses pour le faire. Alors il y a un truc important, je ne l'ai pas dit là, mais Terraform est aussi intégré directement dans la partie bash. Donc on peut aller exécuter du Terraform depuis son bash Azure. Donc ça c'est plutôt pas mal aussi. Parce que du coup ça évite aussi d'installer l'outil, de le maintenir, etc. Parce que derrière forcément c'est managé par Microsoft, donc on n'a pas grand chose à faire quoi.
Ça nous fait pas une petite transition habile vers un sujet dont on voulait parler également.
La partie Docker Kubernetes dans Azure.
Ou la partie Terraform.
Ou la partie Terraform. Ça peut être les deux. Alors moi il y a une nouveauté là que j'ai rencontrée il n'y a pas si longtemps que ça, j'ai pas eu le temps d'en parler. Une petite nouveauté qui est très sympathique, c'est que si on utilise Terraform et Azure CLI sur la même machine, avant, en fait, quand on utilisait Terraform, donc il y a Stanislas qui fait un super article sur son blog qui explique comment on crée un service principal, etc., etc., qui est quelque chose d'assez complexe et que si on n'a pas les droits, on ne peut pas le faire. Et donc, on se prive de l'automatisation avec Terraform, qui est quand même, à mon sens, beaucoup plus pratique que les templates ARM pour, en tout cas, déployer de l'infrastructure rapidement, pouvoir la détruire et la versionner assez facilement. Ça pique un peu moins les yeux que le JSON. C'est personnel, mais c'est comme ça. Du coup, l'idée, c'est, vous pouvez l'essayer, donc vous téléchargez la dernière version de Terraform, vous connectez avec l'Azure CLI version 2, la dernière, et automatiquement, derrière, vous n'avez plus besoin de créer ce fameux service principal, vous êtes authentifié directement, vous pouvez déployer vos ressources tranquillement.
D'accord.
Donc ça, c'est quand même super bien, et je pense que ça va...
Moi, j'avais automatisé le truc pour
accélérer les choses.
Pour le service principal, là, j'avais fait un script qui faisait automatiquement le point .tf qui allait bien. Et basta, quoi, c'était fini après.
Voilà, bah maintenant, t'as plus besoin. Moi, l'avantage que je vois aussi, parce qu'il y avait quelque chose qui me gênait beaucoup, c'est qu'en fait, si tu veux faire des fichiers .tf pour Terraform complet, tu étais obligé de mentionner ton provider. Et sur les premières versions, donc quand j'avais fait la session avec Stanislas l'année dernière au MS Cloud Summit pour ceux qui étaient là, la problématique c'est qu'en fait tout devait être dans le même fichier Terraform, donc déjà ça ils l'ont enlevé maintenant. On peut les séparer et donc pour moi il y avait un gros problème de sécurité à partir du moment où on a un fichier d'infrascode avec le service principal en dur dans le fichier qui est posé dans GitHub par exemple. Si on le publie sur quelque chose de public, bah pour le coup, n'importe qui a accès au service principal et n'importe qui peut déployer des ressources.
Oui, c'est toujours le même problème.
Il y a déjà eu le cas avec des clients Amazon. Hein.
Ouais. Il y a des gens qui sont spécialistes dans le crawling de GitHub pour trouver les credentials.
Bah évidemment, c'est quelque chose où il faut faire très attention, même quand on publie des screenshots, quand on publie quoi que ce soit. Il faut faire attention à au minima changer des valeurs dans ce qu'on fournit, soit les masquer carrément parce que ça n'a pas d'intérêt déjà, et puis c'est dangereux. Sinon, il y a quand même une annonce importante, c'est que HashiCorp, donc l'éditeur de Terraform,
ouais,
est maintenant beaucoup plus avec Microsoft. Donc ça, Pascal, je pense que tu le sais aussi bien que moi. Il y a énormément de choses qui vont arriver, donc du coup maintenant on a déjà le support des managed disks, on a le support de quasiment toutes les ressources côté IaaS. Donc aujourd'hui je dirais que l'utilisation du JSON qui pique les yeux quand on est sur des gros déploiements, il n'y en a pas vraiment besoin.
Ouais, on a formalisé un partenariat avec HashiCorp qui fait que effectivement la couverture fonctionnelle, c'est-à-dire que Terraform donc va pouvoir gérer de plus en plus de ressources Azure pour générer des infras dans Azure. Il n'y a pas que Terraform dans le portefeuille de HashiCorp, il y a également Packer pour faire des images de VM.
Exactement, donc Packer, pour la petite anecdote, peut-être que tu le raconter toi-même, mais il faut savoir qu'en fait Microsoft gère les images du store Azure avec Packer maintenant, quasiment pour toutes. Pour ceux qui font un peu d'intégration continue avec VSTS, il faut savoir qu'on a la possibilité maintenant de construire des images directement dans VSTS avec Packer pour les déployer dans Azure. Donc c'est quand même très intéressant, ça s'intègre très bien. De toute façon, normalement, si tout se passe bien, on aura une démo la semaine prochaine dans ma session avec Stan. Donc normalement on devrait avoir quelque chose d'assez complet sans forcément être obligé de passer par des étapes sysprep manuelles, upload d'images et ce genre de choses. On peut directement les créer dans son usine logicielle si on a
super
une, si on, on est en DevOps vachement bien. Et d'ailleurs, j'invite tous nos amis IT à vraiment jeter un coup d'œil sur les technos VSTS, Jenkins et autres, parce qu'il y a vraiment beaucoup, beaucoup de choses qui sont très intéressantes même pour nous, que ce soit sur la partie Docker, que ce soit sur la partie Azure, Kubernetes, en fait, tout est dedans. Je dirais que pour faire de l'infra as code, c'est presque indispensable.
Donc sur Terraform, pour conclure, on a fait une vidéo avec Stan cet été, qui est en ligne, je mettrai le pointeur, mais elle est dans YouTube, puisqu'on n'a plus de site pour l'accueillir, mais bon, elle est au moins dans YouTube. Et puis une petite vidéo de peut-être un peu moins d'une demi-heure, je pense. Et puis donc il y a votre session la semaine prochaine à MS Experience.
Exactement. Voilà, c'est de 13h30 à 14h30, normalement.
Le 4.
Si je dis pas de bêtises. Voilà, le 4.
Dans le meilleur track de tous, qui est le track des
très nombreux. Exactement, donc il y aura vraiment de tout, même pour un public de dev, hein, il n'y a pas de problème, parce que comme on fera peut-être un peu de VSTS si tout fonctionne bien, ça peut être sympa aussi. Pour justement comprendre comment on intègre, par exemple, même du code qu'on ne gère pas, dans une usine logicielle. Ce sera une petite démo qui ne durera pas forcément très longtemps, mais... Le programme est très chargé, très dense. On a beaucoup de choses à dire autour de tout ça. Pas mal de retours d'expérience, parce que moi j'en fais quand même pas mal. Et après, si vous voulez, pour enchaîner sur la partie, si on a le temps, on peut parler éventuellement un peu de Kubernetes dans Azure. Pourquoi pas ?
Maxime, tu es toujours là ?
Bien sûr.
Maxime, est-ce qu'il y a quelque chose que tu voulais aborder ? Parce que là,
je ne dors
que...
pas, non.
Non, je sais que tu ne dors pas. Mais là, je vois que l'heure tourne. Donc,
je laisse nos invités s'exprimer.
Allez, donc on parle un petit peu de Kubernetes pour terminer ? Avec un retour d'expérience d'un vrai client, hein, Étienne.
Exactement, un vrai client. Et donc, l'idée de départ, c'était de mettre en place donc, une usine de Data Lab, donc pour faire de la consommation de données depuis un Hadoop, donc du NoSQL globalement. Et donc l'idée, c'était de tout déployer sur des technos conteneurs avec comme orchestrateur Kubernetes. Donc ça, c'était le postulat de base. Et donc au départ, l'idée, c'était d'utiliser ACS. Sauf que le contexte particulier du client a fait qu'au moment du lancement, on ne pouvait pas utiliser ACS. Tout simplement parce qu'au départ, ils utilisaient par défaut des load balancers publics, donc avec des IP publics. Donc ça voulait dire exposer la partie master. Donc la partie master de Kubernetes, c'est celle qui va gérer l'orchestration des conteneurs sur la partie worker. Mmh. Et aussi un load balancer côté worker. Le tout en public avec des IP publics, et donc ça c'était inenvisageable, surtout sur une expérimentation dans Azure, que c'était la première, c'était vraiment pas possible. Donc on a décidé de faire autrement, on est passé sur ACS Engine qui était un petit peu plus souple et qui nous permettait de faire un peu plus de choses. Alors il faut savoir que Kubernetes c'est un produit qui évolue très vite, très très vite. La courbe d'apprentissage elle est vraiment très abrupte. En fait, c'est-à-dire que moi, par exemple, sur les deux premières semaines, je comprenais rien de ce que je faisais, mais vraiment rien. Donc si vous commencez et que vous ne comprenez rien, c'est pas grave, continuez.
En fait, c'est normal, vous inquiétez pas.
C'est normal, c'est pas un bug, c'est une feature, c'est de base.
Tout ira bien.
Ce qui se passe, c'est que déjà, si on a fait du Docker avant et du Docker avec Swarm, déjà, on sera paumé de base. Parce qu'il n'y a pas grand-chose qui fonctionne pareil. Les terminologies ne sont pas du tout les mêmes. Il y a pas mal d'automatisations qui sont faites côté Kubernetes qu'on va se dire bah, on va le faire à la main comme on faisait avant dans Docker, et ben non, il n'y a pas besoin, et donc c'est vraiment quelque chose de très complet. C'est quelque chose même qui est très plaisant. Alors il y a des petites anecdotes marrantes, mais la première fois que vous allez vouloir redémarrer un conteneur, vous allez vous dire bon bah je fais un kubectl, donc qui est la commande principale pour gérer tout ce qui se passe dans la vie du cluster Kubernetes. Et ben en fait, il n'y a pas de kubectl restart, ça n'existe pas. Donc ce qu'il faut faire, c'est un kubectl delete. Donc la première fois, je peux vous assurer que vous avez... Enfin, automatiquement, on hésite un petit peu, on se dit, merde, je vais peut-être pas supprimer mon truc, si ça marche plus, je fais comment, enfin bref. Mais en fait, ça marche tout seul, parce que tout est décorrélé. Donc en fait, ce qui se passe, c'est qu'à chaque fois que vous allez vouloir démarrer des conteneurs, vous allez devoir créer un déploiement. Ce déploiement, il va aller créer derrière des ressources, donc de type pod, automatiquement selon les critères que vous avez donnés. Donc quand on va supprimer les pods, le déploiement, lui, qu'est-ce qu'il fait ? Automatiquement, il va redéployer. Alors bon, derrière, on peut avoir des trucs assez rigolos. Moi, j'ai passé parfois une bonne demi-heure à me dire « Bah merde, je comprends pas, il me les redéploie alors que j'arrête pas de les supprimer. » Ça fait des scénarios assez rigolos avec les collègues. On peut bien se marrer. On peut faire des blagues. Il y a vraiment énormément de choses très intéressantes. Là, il y a eu des grosses nouveautés. Donc, par exemple, il y en a une que Fabien Dibault, je ne sais pas s'il est déjà venu dans l'ITcast,
plusieurs fois.
M'a pointé, que je n'avais pas vu. Je l'avais raté parce qu'en fait, elle est passée complètement inaperçue. Et ça me paraît hyper important de le savoir pour tous les gens qui vont vouloir faire du Kubernetes dans Azure. C'est tout simplement la possibilité maintenant, alors qu'avant, ce n'était pas le cas, d'utiliser directement les load balancers Azure, mais interne, pour pouvoir justement faire un cluster vraiment interne, mais même côté ACS. Aujourd'hui, on a la possibilité de le faire. Et donc, ça va permettre de s'affranchir de toute la partie configuration, de soit d'un HAProxy, d'un Nginx, ou pourquoi pas d'un trafic, à voir en fonction de ce que vous avez besoin. Mais là, en fait, il n'y a plus besoin. On peut s'abstraire complètement de toute cette partie qui est quand même très compliquée à comprendre au départ. Donc, quand on... Effectivement, bah, comme je le disais tout à l'heure, la courbe d'apprentissage elle est très raide, donc si on peut s'éviter au départ de gérer des choses qu'on ne comprend pas comment ça fonctionne, il vaut peut-être mieux le faire comme ça. Alors après, moi, la petite subtilité, c'est que là, je suis en train de mettre en place l'intégration continue avec VSTS pour déployer les services dans Kubernetes. Mm-hmm. Donc là, aujourd'hui, j'en suis à 80% d'automatisé. Donc c'est quelque chose qui, pour moi, qui suis, je dirais, presque pure IT, d'assez marrant, parce qu'au final, on fait son code dans VSTS, on pose ses fichiers JSON, ses fichiers YAML, ses Dockerfiles, etc. Et automatiquement, dans le portail, en fait, c'est assez facile, on va déclarer la build pour aller générer ces images Docker automatiquement, les mettre dans l'Azure Container Registry, puis ou dans un registry autre, hein, pourquoi pas. Et après, on peut aller exécuter des commandes SSH automatiquement sur le cluster Kubernetes. Et on déploie tous ces services comme ça à la volée, sans avoir on n'a pas besoin de se connecter sur le serveur. C'est assez bluffant, parce que du coup, ça prend vraiment des toutes petites secondes pour tout refaire. C'est vraiment impressionnant.
Cool. Alors, je précise que si vous voulez, si vous débutez en Kubernetes, il y a un cours qui s'appelle Introduction to Kubernetes dans le site de formation qui s'appelle EDX. Je ne sais pas si vous vous connaissez, mais ils font beaucoup de formations.
Oui, excellent ce site.
Hein, il est vraiment excellent. Et les cours gratuits sont vraiment bien faits. Et là, c'est un cours fait par The Linux Foundation qui s'appelle Introduction to Kubernetes qui vous donne une introduction à Kubernetes assez bien fichu.
Il y a ça qui est bien fait, et par rapport à il y a 6 mois, la doc Kubernetes a beaucoup évolué. Elle est beaucoup plus compréhensible aujourd'hui, je dirais, avec pas mal de tutos interactifs. En fait, on peut directement saisir les commandes et comprendre comment ça fonctionne et comment ça s'articule. Donc c'est assez pratique aussi sur kubernetes.io, je crois que c'est docs.kubernetes.io. C'est vraiment quelque chose de très très sympa. Et je pense qu'aujourd'hui c'est beaucoup moins compliqué qu'il y a quelques mois. Donc si vous avez des projets de déploiement dans Azure ou pas d'ailleurs, hein, ça peut marcher partout, c'est l'avantage aussi de ces solutions là. Franchement, allez-y. Faut pas avoir peur de se planter au départ, c'est normal. C'est quand même assez disruptif. Alors c'est vrai que par contre, après, quand on retourne pour déployer des machines virtuelles, ce soit on-prem ou dans Azure, c'est vrai que là, par contre, le temps paraît long par rapport à du conteneur. Ça, faut faire gaffe quand même.
Ouais, donc Kubernetes, moi, je conseille de vraiment s'y intéresser parce que ça va prendre de plus en plus d'importance, quels que soient les contextes, effectivement, que ce soit du local, du cloud, de l'hybride. On le trouve également dans OpenShift, hein, dans la solution de PaaS de Red Hat avec laquelle on travaille beaucoup également dans Azure. C'est du Kubernetes à l'intérieur. Donc toi, tu l'as utilisé donc avec ACS Engine pour avoir une,
ouais.
dont l'intérêt, c'est de pouvoir faire des déploiements personnalisés de Kubernetes, entre autres, dans Azure, puisqu'il va générer les templates ARM.
Ça. Voilà, il génère tous les templates ARM. En fait, on a un système de pseudo-templates beaucoup plus léger. On va pouvoir déclarer vraiment un nombre minimal d'informations. Après, bon, il y a pas mal d'éditions à faire. Enfin, moi, à l'époque, il y avait beaucoup d'éditions à faire pour changer, justement, et virer les load balancers internes et mettre, enfin, le externe et mettre des internes à la place. C'était la complexité à l'époque. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Donc, franchement, je pense que sur les prochains déploiements, ça va être du bonheur. Et après, une fois que c'est fait, c'est vraiment quelque chose qui est vraiment bluffant. Et même sur la mise à l'échelle des services en mode automatique, ça se fait tout seul. Bon, il y a des prérequis hein, sur le snakeless, sur la gestion de ces bases de données, comment on les gère, est-ce qu'on les met en interne ou est-ce qu'on les met en externe. Enfin, il y a pas mal de petites choses comme ça. Mais après, une fois passé ces étapes-là, c'est vraiment bluffant et ça marche vraiment super bien. Quoi.
Merci Étienne de ces infos. On va mettre les pointeurs correspondant à tout ça, évidemment, dans l'article. On avait plein de sujets qu'on voulait aborder, hein, que ce soit Maxime ou moi. Évidemment, avec.
On se refera un ITcast dédié.
Voilà, il y avait trop de choses intéressantes entre Ignite et les informations de Michael et d'Étienne pour qu'on en rajoute avec nos petites histoires. Hein, on fera un épisode bientôt.
C'est promis, la prochaine fois, on sera moins bavard.
Mais non, voilà. Revenez quand vous voulez.
Non, mais c'était super intéressant. C'était aussi le but de faire un débrief de tout ce qui a été annoncé. Donc,
C'est ouais. Pas fini. Je pense que Ignite peut avoir plein de surprises encore.
Donc, voilà, c'est pas fini. Ignite n'est pas fini. Quelques jours. Ça finit quand ça finit jeudi, vendredi.
Vendredi, disait Jean-François.
Ouais.
Il y a quand même un point qu'on n'a pas abordé sur les news d'Ignite, c'est aussi tous les changements partie réseau dans Azure. Il y a énormément de choses à revoir.
Je pense qu'on se fera un ITcast dédié si ça vous va, parce qu'effectivement, il y a plein de choses qui ont bougé.
Il y a pratiquement tout a changé. En fait, toutes les limitations qui étaient connues ne sont plus les mêmes. Enfin, tout a changé. Donc je pense qu'il faut, il faudra le faire.
On ne va pas prendre rendez-vous précis, mais dans 2 semaines... promis, il y aura un épisode. Enfin, chaque fois que je dis ça, on le loupe, mais allez, on va essayer de tenir la promesse cette fois-ci.
Ouais,
hein, Maxime.
Bon, on n'est pas très régulier en ce moment. Hein.
on va essayer.
C'était les vacances.
Ouais, voilà. Et puis il y a plein d'événements qui tombent.
Ça fait un moment quand même les vacances, ça fait un mois. Hein.
Moi, ça fait une semaine.
C'est la rentrée, il y a plein d'événements, il y a encore les MS Experience à préparer, enfin bon. C'est un petit peu compliqué tout ça, mais on va en promet pour dans 2 semaines. Bah écoutez, il ne me reste plus qu'à vous remercier. Donc, Jean-François et Céphala ont dû nous quitter parce qu'ils avaient des contraintes. Jean-François avait une présentation à Ignite et puis Céphala avait un train à prendre, je crois.
Ouais, c'est ça.
Donc, merci Michael.
Bah, merci à vous pour l'invitation. N'hésitez pas si besoin.
Merci Étienne. Et puis, à une prochaine fois. C'est la première fois que tu viens, mais j'espère que ce n'est pas la dernière. Donc, à une prochaine fois, Étienne.
J'espère bien que je reviendrai.
Bon, en tout cas, tu es le bienvenu. Et puis, Maxime, eh ben, écoute, on se dit à la prochaine. On croise les doigts.
Ben, à la prochaine.
Hein,
et puis, en attendant. On est au MS Experience, du coup.
Exactement. Bon week-end.
On sera tous à peu près là, hein, contre la communauté CMD. Ceux qui représenteront quand même le PowerShell, le French PowerShell User Group, on se baladera avec nos stickers. Donc je pense qu'on aura plus l'occasion de se croiser là-bas.
Ouais, et puis il y a plein de sessions.
Puis après, pour ma part, si vous ne me connaissez pas encore, n'hésitez pas à venir me voir pendant MS Experience, il n'y a aucun problème, je ne mords pas. Donc pas de soucis.
Ça marche. À bientôt.
Alors, merci à tous, très bonne soirée.
Merci, bon week-end, au revoir.
Au revoir.